Manaono, salam, bienvenue sur Malabar. Je suis Simbach, je suis l'hôte du podcast Malabar. Malabar, c'est le premier podcast qui vous fait découvrir Madagascar autrement. À travers les expériences de mes invités, je vous emmène à la découverte de ce pays qui regorge non seulement de richesses, j'ai nommé la vanille de Madagascar, mais aussi et surtout d'une génération fantastique qui veut aider le pays à se développer. Dans chaque épisode, vous découvrirez le parcours de mon invité, ses expériences et son regard porté sur le pays. Montage et réalisation de chaque épisode, Maillé, Rami Prod, je vous mets tous les liens dans les notes de chaque épisode. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Sarik, bienvenue sur Malabar.
Bonjour Simbach, je suis très heureuse de participer à ce podcast.
Merci, merci à toi d'être avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de plein de thèmes que j'adore, qui sont les jeux, les enfants, le partage, la compétition, parce que c'est ça aussi les jeux, et gagner ou perdre. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, s'il te plaît, Sarik ?
Oui, alors moi, je m'appelle donc Sarika Razanamparani, j'ai 42 ans, j'ai 4 enfants âgés entre 6 et 17 ans. Je suis à Madagascar depuis 2 ans maintenant, parce qu'en fait, moi, j'ai grandi à Madagascar, j'ai passé le bac ici, et puis je suis partie en France pour faire mes études à Toulouse. Voilà, j'ai fait des études de banque et finance pendant 5 ans, et puis je suis restée travailler sur place. Donc, j'ai travaillé dans une banque pendant 16 ans et je suis revenue ici avec ma famille, donc ici à Tana, depuis 2 ans maintenant.
D'accord, voilà.
Et j'ai monté, pardon, et j'ai créé Pilalo.
Justement, ça va être le thème central de notre conversation. Mais avant ça, est-ce que tu peux me dire dans quel contexte tu as grandi ? Comment s'est passée ton enfance ? Comment était ta famille quand tu as grandi à Madar ?
Oui, papa était médecin, maintenant il est à la retraite. C'était un médecin militaire, voilà. Et maman, elle était déléguée médicale parce qu'elle est à la retraite maintenant. Donc, elle travaillait pour un grand laboratoire pharmaceutique. Voilà, donc moi, j'ai grandi à Mada. J'ai passé une super enfance parce que j'ai pu partir en vacances dès qu'on pouvait avec mes parents, partir en vacances. Donc, j'ai des souvenirs d'enfance, en fait, qui sont vraiment chouettes. Et d'ailleurs, c'est chouette parce que c'est ce genre de souvenirs qui me poussent aussi, moi, pour mes enfants, à essayer de faire en sorte, en fait, qu'ils aient quand même la possibilité aussi de partir, d'avoir un peu ces chouettes côtés de l'enfance que moi, j'ai eu, quoi.
Et tu as des frères et sœurs ?
Oui, j'ai des frères et sœurs. J'ai une petite sœur qui est ici à Madagascar et j'ai des grands frères et sœurs qui sont en France.
D'accord, d'accord. Donc, tu étais dans un contexte famille nombreuse, vous étiez proche avec vos frères et sœurs.
Oui, alors j'ai des frères et sœurs, mes grands frères et sœurs, en fait, c'est issu d'un premier mariage de mon papa. Donc, je les considère bien sûr aussi comme mes frères et sœurs. Mais du coup, on n'a pas grandi ensemble avec ces grands frères et sœurs-là. J'ai surtout grandi avec ma petite sœur.
D'accord, d'accord, d'accord. Et donc, toi, tu as grandi à Tana. Est-ce que tu as vécu dans d'autres villes à Madagascar ou tu es restée à Tana avant d'aller en France ?
Non, je suis restée à Tana.
D'accord. Et Tana, pourquoi ça ? Tana, ça représente quoi pour toi comme ville, si tu devais la décrire, pour ceux qui ne sont pas forcément allés depuis très longtemps comme moi, à quoi ça ressemble, quels sont tes souvenirs, voilà, comment tu te sens à Tana ?
Alors, à Tana, c'est l'effervescence. Voilà, s'il y a un mot qui peut définir cette ville, je pense que c'est ça, parce que ça bouge, il y a du bruit, il y a des embouteillages. Tu vois, moi là, j'enregistre depuis Pilalo, mais les fenêtres sont fermées, mais on entend quand même bien la circulation. Donc moi, je pense que c'est ça, hein, parce que Tana, c'est vraiment l'effervescence, puisque rien que tu te déplaces d'un point à un autre dans la rue, ça me fait penser à mes enfants. Ils sont toujours à regarder par les vitres, parce qu'il y a toujours des choses en fait à voir, et c'est jamais la même chose tous les jours. Donc, c'est vraiment comme ça que je pourrais définir Tana. C'est des choses inédites, des choses qui bougent et des choses qui ne sont pas habituelles que tu vois tous les jours.
D'accord. Mais c'est bien, on ne s'ennuie pas alors.
Ah oui, pour ça, non, on ne s'ennuie pas. Non.
D'accord. Et donc, du coup, tu restes jusqu'au bac à Mada. Tu décides d'aller en France. Pour toi, c'était une évidence d'aller étudier en France ou c'était une opportunité qui s'est présentée ?
On va dire que c'était une opportunité parce que j'avais le choix entre soit rester en fait à Tana pour faire des études de médecine, parce que mon papa du coup est médecin et dans la famille aussi il y a beaucoup de médecins. Et c'est vrai que j'étais un peu prédestinée à faire médecine aussi. Comme dans la famille, il n'y avait aucun médecin, donc personne n'a suivi mon papa. Je pense qu'on comptait pas mal sur moi par rapport à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai suivi la filière scientifique. Et je voulais, moi aussi, je voulais vraiment, enfin, je voulais faire médecin. Et puis finalement, c'est la filière économique en terminale qui m'a intéressée. Et donc le choix, c'était soit rester ici faire médecine ou soit partir et faire ce que je voulais vraiment finalement. Donc faire de l'économie. Et donc je suis partie.
D'accord. Et tu avais quelle image de la France pour y vivre? Parce que peut-être que tu y avais déjà voyagé pour des vacances.
Alors oui, j'étais déjà en vacances. Ben, la France, pour moi, c'était vraiment un autre monde. Parce que c'est vrai que rien que cette effervescence de Tana, où ça va dans tous les sens, on va dire, j'avais cette image de la France très calme, très carrée, propre aussi. Parce que c'est vrai que dès qu'on arrive à l'aéroport, tu vois tout de suite le changement. Entre les deux aéroports, voilà, tu vois déjà le gros contraste. Donc j'avais vraiment cette image de organisé, posé, rythmé, propre, carré de la France.
Et quand tu es arrivé là-bas, du coup, tu es entré à l'université directement. Tu as été baigné tout de suite dans un univers où tu avais forcément la langue française. Tout ce système de fast life, parce que ce qui paraît à Mada, c'est plutôt mouramour. Toi, tu t'y es vite adapté. Comment tu t'es senti?
Alors, je pense que je me suis vite adaptée. La difficulté, à mon avis, c'était d'apprendre son autonomie hein, en tant qu'étudiant. Parce que finalement, ici, quand on est déjà enfant, enfin, quand on vit chez les parents, quand on est lycéen, bah, on se préoccupe de rien. Si peut-être des sorties du samedi soir. Mais sinon, c'était vraiment ça le challenge. C'était quand. Dès que je suis arrivée en France, c'était vraiment de prendre mon rythme, de me faire à manger, d'être autonome, de m'organiser moi-même et par rapport à mon planning et d'être responsable de ma vie finalement.
Tu m'as dit que tu étais restée 23 ans en France. Finalement,
Oui, 23 ans, oui.
c'est quand même assez long. Pour toi, c'était les études et je rentre à Mada. Pourquoi pas faire ma vie en France? Ou c'était certain que pour toi, tu rentrerais à Mada pour y vivre ensuite toute ta vie?
L'idée, et je pense que c'est l'idée de beaucoup d'étudiants malgaches qui arrivent en France, l'idée de départ, c'était je pars en France pour faire les études. Et ensuite, je reviens justement parce que mon pays a besoin de moi. Donc ça, c'était l'idée de départ. Au fur et à mesure, c'était toujours cette idée hein, que j'ai eue. Par contre, comme j'ai vite trouvé, après mes études, j'ai vite trouvé un emploi, une expérience professionnelle sur place, les choses ont un peu évolué en fait dans ma tête à ce moment-là. Comme quoi, hein, la vie, des fois, tu as une chose en tête et petit à petit, elle va t'amener autre part. Et donc, elle m'a amené autre part. Et j'ai décidé de continuer ma vie là-bas en prenant de l'expérience. Donc, à ce moment-là, au départ, c'était. Je fais mes études, je rentre à Madagascar, et puis petit à petit, c'était, je fais mes études, je prends de l'expérience, puis je rentre à Madagascar. Mais cette idée de rentrer à Madagascar était toujours quelque part dans ma tête. Ça ne m'a pas quittée en tout cas. Et donc après, c'était prendre de l'expérience et rentrer. sauf que j'ai fondé ma famille aussi, du coup, là-bas. Et donc, forcément, repartir à deux, donc avec mon mari, et repartir à six parce qu'on a quatre enfants, c'est différent.
Ah
C'est
oui.
différent. Et voilà. Et donc, la France, grâce à mon expérience en France, on a pu élever nos enfants parce qu'ils ont le plus grand, il a 17 ans. Donc, il a grandi jusqu'à ses 15 ans en France. Et finalement, on est resté en fait là-bas, mais pour repartir après 23 ans.
Mais tu t'y sentais quand même chez toi en France? Tu t'es attachée à la France ou pas plus que ça?
Si, je pense qu'en 23 ans, je ne pourrais pas dire le contraire. Déjà, si je suis restée, que j'ai décidé que je resterai après mes études pour l'expérience professionnelle, c'est que quelque part, j'étais vraiment attachée aussi, hein, à la France. Sinon, j'aurais pris la décision. Tu sais, quand on est attaché en fait à un pays, alors là, je suis attachée à la France et à Madagascar en même temps, mais à ce moment-là où j'ai pris la décision de rester pour mon expérience professionnelle sur place, je pense que c'est parce que j'étais attachée à la France que j'y suis restée, oui.
D'accord. Et donc du coup, maintenant, ça va faire 2 ans que tu es rentrée à Mada avec toute la famille, c'est bien ça, avec tous les enfants et ton mari.
Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
Comment ça se passe? Comment vous vous sentez tous les six maintenant à Mada?
On se sent bien. Alors, on est cinq parce que le grand est reparti, du coup, parce qu'il a eu son bac, en fait, l'année dernière, et il est reparti en France pour ses études. Et donc là, à cinq, bah, écoute, ça se passe bien. Là, au bout des 2 ans, bilan, on va dire, positif. Tout le monde s'y sent bien. Tout le monde a trouvé un peu, chacun a trouvé ses repères. Et je pense que le bilan global, il est vraiment positif, oui.
D'accord, mais c'est super. Donc là, on arrive au thème central qui est Pillalo. Est-ce que d'abord, tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est Pillalo?
Oui, bien sûr. Alors, Pillalo, c'est une ludothèque. Une ludothèque, c'est un endroit où il y a des jeux de société. Si on compare avec une bibliothèque, donc la bibliothèque, c'est là où on trouve des livres, et une ludothèque, c'est là où on trouve des jeux de société. Donc, Pillalo, c'est la première, hein, à Madagascar. Il y a à peu près 300 jeux et jouets sur place, donc c'est un lieu fixe. En même temps, je fais aussi jouer à l'extérieur de ce lieu fixe parce que je vais faire jouer les écoles, les entreprises aussi. Je fais jouer bénévolement aussi un orphelinat, et puis il y a des associations aussi qui font appel à moi pour faire jouer bénévolement des enfants. Donc voilà, donc c'est vraiment mon activité est centrée sur le jeu de société, et j'essaie de faire jouer le maximum de personnes. Voilà, pour résumer un peu ce que c'est Pillalo.
D'accord. C'est pour ça que vous êtes rentrée, pour que tu fondes Pilalo, ou c'est deux choses complètement distinctes?
C'est une des raisons. On va dire que ça a été l'opportunité de monter Pillalo à notre retour, mais notre retour, ça a été surtout une raison familiale. C'était pour que nos enfants puissent profiter de leurs grands-parents qui sont tous ici.
D'accord, très bien. Donc comme je te le disais en amont de l'interview, l'audience, elle est très occidentale. Donc nous, les ludothèques, c'est des choses dont, comme tu as pu le voir en France, c'est des choses dont on a l'habitude. À Madagascar, tu me disais que c'était la première qui existe. Comment t'es venue cette idée de créer une ludothèque Canada?
Cette réflexion, je l'ai eue il y a quelques années, c'était en 2015. Moi, ça faisait 16 ans, enfin, pas ça faisait 16 ans en 2015, mais ça faisait longtemps que je travaillais donc, dans la même banque. Et j'ai adoré ça, hein, c'est pour ça que je suis restée super longtemps dans cette banque-là. Mais à un moment donné, en fait, je me suis posé vraiment la question de savoir ce que je voulais faire dans la vie. Notamment, alors, c'est l'histoire que je raconte parce que c'est vraiment ça, et c'est vrai que j'ai l'impression de la raconter tout le temps. Mais c'est vraiment mon histoire, c'est que j'admire les gens qui vivent de leur passion. Et moi, je voulais aussi trouver quelque chose qui puisse me faire vivre aussi au quotidien, mais tout en étant un talent, une passion. Mais comme je ne sais pas cuisiner au point d'ouvrir mon restaurant ou danser au point d'être danseuse professionnelle, tu vois, et je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que je sais vraiment faire et que je puisse en faire une activité. Et si je te retrace un peu l'image, j'ai cette image de moi, des choses que je sais faire au quotidien, et de barrer au fur et à mesure, en fait, non, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Et il est arrivé que je mette le mot, en fait, jouer, parce que j'adore jouer. J'aime bien jouer aux jeux de société, j'aime bien jouer tout court, j'aime bien jouer avec mes enfants, avec mon entourage. Et je me suis dit, bah tiens, on va faire quelque chose autour du jeu, d'autant plus qu'à Madagascar, il n'y a pas de ludothèque. Et je me suis dit, allez, on va faire quelque chose dans ça.
D'accord. C'est intéressant comme réflexion. T'avais envie de travailler pour toi, parce que du coup, tu as été en salariat assez longtemps. T'avais envie de fonder quelque chose qui était propre à toi. T'avais envie de t'associer. Comment se sont présentées les choses quand tu étais dans ta réflexion de « je vais vivre de ma passion » ?
Oui, j'avais envie de faire quelque chose à moi parce que je me suis rendu compte pendant mes années de salariat en fait à la banque que j'avais déjà cette peut-être cet état d'esprit d'entrepreneur quelque part parce que j'essayais au quotidien d'optimiser les choses quand j'étais pas d'accord, j'essayais de prendre des initiatives et de voilà de dire au chef pourquoi vous essayez pas de faire comme ça ou pourquoi si pourquoi c'est comme ça et en fait je me suis dit que tiens je vais peut-être de mon propre chef faire quelque chose à moi et c'est comme ça que Pilalor en fait a évolué aussi dans ma tête et par écrit parce que j'ai beaucoup écrit mes idées oui donc je pense que c'était naturel pour moi d'avoir quelque chose à moi.
D'accord. Et donc aujourd'hui, Pilalove, c'est à Tana, c'est ça? C'est basé, en tout
oui,
cas, la
c'est
bibliothèque
ça.
Est basée à Tana. Ça fait. Comment tu t'organises, toi, au quotidien? Parce que tu nous disais tout à l'heure que tu vas aussi dans des orphelinats, tu vas aussi dans des entreprises, tu as la ludothèque qui est ouverte. Comment tu organises ton emploi du temps pour pouvoir être un peu partout à la fois?
Alors il y a effectivement des horaires d'ouverture hein, chez Pilalo. Il y a des horaires pendant la période scolaire, par exemple. Il y a des jours où Pilalo est fermé parce que clairement les enfants sont à l'école. Du coup, cela me permet d'avoir des journées où je peux faire autre chose, où je peux aller faire jouer par exemple les entreprises, tu vois. Et après, par rapport au bénévolat aussi, j'essaie d'y aller régulièrement. Là, j'essaie d'y aller une fois par mois pour faire du bénévolat et j'arrive à caser ces créneaux pour le bénévolat justement dans les heures où Pilalo n'est pas ouvert. Après, il peut arriver que des événements ou qu'on me demande de fêter des anniversaires par exemple à l'extérieur pendant les heures d'ouverture de Pilalo et à ce moment-là où je ne peux pas me cloner en fait je fais appel à j'ai du renfort quand même qui vient m'aider. Qui est un peu dans le même univers que moi, qui aime le jeu, qui aime jouer. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré les renforts qui viennent m'aider ici. C'est que c'est des joueurs qui sont venus chez PLO à la base, et voilà, qui viennent m'aider de temps en temps, quand vraiment j'ai besoin d'aide.
Donc, tu as converti tes clients en ambassadeurs, c'est génial.
Ouais, et tu vois, c'est vraiment comme ça que Pilalo aussi s'est fait connaître. C'est mes clients qui deviennent ambassadeurs et qui font beaucoup de bouche à oreille.
D'accord. Tu as dit quelque chose d'intéressant qui m'a un peu... qui attise un peu ma curiosité. Tu disais que tu allais en entreprise pour pouvoir faire jouer des salariés. Du coup, là, on n'est pas sur des enfants, on est bien d'accord.
Oui.
Qu'est-ce que vous faites? Dans quel cadre ça se fait?
Alors, comme les jeux ici, il y a vraiment une grande, grande variété et ça peut toucher de nombreuses aptitudes. Tu vois, il y a des jeux, par exemple, qui stimulent ton imagination, ta créativité. Il y a des jeux qui te permettent d'avoir une cohésion d'équipe pour voir un peu comment tu communiques en équipe, comment tu négocies les choses. Et c'était ça, hein, ta question. Et du coup, en fait, je me suis dit, ben, tiens, c'est vrai, pourquoi ne pas en faire profiter en fait, les équipes d'entreprise. Et donc, quand je vais en entreprise, je propose ce type de jeu. Ce type de jeu qui met un peu en avant des aptitudes à stimuler pour les salariés et des aptitudes d'ailleurs qu'ils utilisent au quotidien dans leur travail. Mais juste dans un autre contexte, voilà, dans le contexte du jeu. Donc, dans le jeu, il n'y a pas de hiérarchie. Donc, c'est ça qui est chouette. C'est que les gens se lâchent, on va dire, et les gens se surpassent et les gens oublient la hiérarchie. Et donc, c'est ça qui est vachement intéressant.
Et c'est quel type d'entreprise? Parce que est-ce que culturellement, dans les entreprises malgaches, c'est quelque chose qui est bien accueilli, qui se fait régulièrement. Tu es plutôt sur des entreprises étrangères.
Alors, j'ai un peu de tout. Là, pour te dire à peu près, il y a déjà depuis l'existence, depuis plus d'un an et demi. Donc, je pense qu'il y a une trentaine hein, d'entreprises. Et ça peut être vraiment ça peut être des grands groupes malgaches. ça peut être des petites entreprises. Donc, j'ai un peu de. Dans le profil des entreprises, il y a un peu de tout. C'est ça qui est chouette. Alors, ça peut être des entreprises étrangères aussi parce que, tu sais, il y a de temps en temps, il y a des entreprises, du coup, où la hiérarchie est basée à l'étranger et ils viennent voir de temps en temps, du coup, les équipes ici sur place. Et Pilalo, du coup, le temps de jeu avec Pilalo est une opportunité pour rassembler et pour réunir justement ces équipes à l'étranger et avec les équipes qui sont sur place. Voilà.
D'accord.
C'est un exemple type du coup d'une entreprise étrangère que j'ai fait jouer et où il y avait un mélange du coup des deux catégories, c'est-à-dire que l'équipe locale et l'équipe à l'étranger.
D'accord. Et pour les enfants, donc tu disais que la ludothèque était principalement créée pour les enfants. Toi, tu jouais régulièrement déjà avec tes enfants. Est-ce que vous jouiez régulièrement à des jeux de société ou à des jeux que vous inventiez d'ailleurs?
Oui, on joue souvent. Alors, on joue pas non plus tout le temps, hein, parce qu'au bout d'un moment, si les enfants, ils en ont marre. Hein. Mais oui, dès que je vois qu'il y a l'opportunité en fait de jouer avec les enfants. Ben du coup, je propose un jeu. Donc, le jeu a toujours été quand même présent dans notre vie, oui.
D'accord. Et les enfants qui viennent à la ludothèque, concrètement, est-ce que ils viennent, ils savent déjà à quel jeu ils vont jouer? Est-ce que l'idée, c'est leur faire découvrir des nouveaux jeux? Quelle est, toi, ta valeur ajoutée pour ces enfants-là qui souhaitent jouer?
Il n'y a pas de règle. Ça dépend vraiment de la personne. Tu vois, il peut y avoir, il y a des enfants qui viennent et comme il y en a beaucoup, il y a une grande variété ici, ils peuvent aller choisir eux-mêmes le jeu parce qu'ils sont intéressés par, il y a une boîte qui captive ou il y a un jeu dont ils se souviennent. Donc là, je laisse vraiment libre en fait les gens qui viennent à la ludothèque d'aller choisir le jeu s'ils en trouvent et de l'autre côté, ceux qui n'arrivent pas à en trouver, parce que justement, il y en a beaucoup ou parce qu'ils ne connaissent pas, de venir les accompagner dans leur choix. Mais il n'y a vraiment pas de règles et c'est vraiment ça que je prône, c'est la liberté de jeu en fait, le libre jeu, le libre choix du jeu.
D'accord. En Europe et même dans d'autres pays en Occident, on a beaucoup ce système de prêts pour des jeux de société pour pouvoir ensuite les tester à la maison, en famille, entre amis, etc. Est-ce que toi, c'est un service que tu proposes aussi avec Pilalo ou c'est que des jeux qu'on peut faire sur place?
Non, c'est que des jeux. J'ai pensé à ce système-là quand j'ai pensé à l'idée. Mais par rapport au nombre de jeux, comme je ne savais pas du tout en fait comment ça allait se passer, est-ce que si jamais les gens empruntent des jeux, est-ce qu'il m'en restera? Ouais, je me posais plein de questions, donc je me suis dit, je commence par un système où les gens explorent les jeux sur place et puis après on verra. Mais pour l'instant, je n'ai pas ce système de prêt, alors je le fais rarement, mais pour les clients déjà qui viennent, enfin j'aime pas dire clients, j'aime dire joueurs, pour les joueurs qui viennent souvent, que je connais très bien, effectivement il peut m'arriver de prêter de temps en temps un jeu. Mais ce n'est pas ce que je fais régulièrement, en tout cas pour l'instant.
D'accord. Comment tu fais pour rester à des jeux de société, il en sort beaucoup chaque année. Comment tu fais pour rester à jour, pour renouveler un peu ta collection qui est chez Pilalo, pour pouvoir mettre en avant des nouveaux jeux, des classiques ou des jeux dont personne n'a entendu parler, mais que toi, tu as découvert qui étaient vraiment bien. Comment tu fais pour continuellement un peu renouveler ta gamme de produits, si on peut dire ça comme ça?
C'est vrai que je t'ai dit que c'était la première ludothèque à Madagascar, donc je pense que je n'ai pas le même système de renouvellement des jeux qu'une ludothèque peut avoir en France ou ailleurs, tout simplement parce que il y a un gros travail ici en fait, de faire découvrir, déjà c'est ça l'étape, c'est de faire découvrir, donc on n'est pas encore dans le renouvellement, dans les tendances qui se font actuellement, dans les derniers jeux qui sont sortis, tu vois, c'est vraiment de faire découvrir d'autres jeux de société, autres que les classiques hein, qu'on connaît comme Monopoly, Uno, le jeu des chevaux de course, hein, des choses comme ça. Et alors oui, j'en renouvelle quand même. Il m'est arrivé déjà de renouveler mes jeux, mais je ne le fais pas régulièrement parce qu'il y a quand même encore beaucoup de marge par rapport aux jeux qui sont présents pour le faire découvrir aux gens. Voilà.
D'accord, d'accord, d'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu du profil des enfants qui viennent te voir? Déjà, comment ils ont connu Pilalow, quel âge ils ont, de quelle classe sociale aussi viennent? Est-ce qu'il n'y a que des malgaches ou il y a aussi les enfants d'expat, etc., qui viennent chez toi? Est-ce que tu peux nous parler un peu des joueurs qui viennent à Pilalow?
Oui, bien sûr. Déjà, il faut savoir que bon, Pilalow ne fonctionne pas comme une ludothèque pareille hein, en France ou ailleurs. Tout simplement parce que les ludothèques, la plupart des ludothèques à l'étranger, elles sont subventionnées par les pouvoirs publics. Parce que dans ces États-là, dans ces pays-là, ils sont déjà convaincus de l'intérêt d'une telle structure en fait dans le pays par rapport aux jeux de société et tout ce que ça peut apporter en termes de bienfaits. Et moi, il a fallu que je trouve un système pour faire exister cette structure-là ici sur place à Madagascar, bah, en sachant hein, que les pouvoirs publics, ils avaient déjà, enfin, j'imagine qu'ils ont déjà beaucoup de choses à faire et avec le budget qu'ils ont. Voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit la ludothèque la priorité du jour. Mais c'est pour ça aussi que je suis là, hein. C'est pour dire coucou, je suis là et je compte bien y rester et vous allez entendre parler de moi. Voilà. Ce qui fait que j'ai dû trouver un moyen pour faire vivre cette structure. Et c'est pour ça que j'ai créé une ludothèque privée, on va dire, parce que je fais payer les gens qui viennent jouer chez Pilalow. Et ce qui fait que du coup, les gens qui viennent ici, donc les enfants, les familles qui viennent ici, donc, elle paye un tarif pour pouvoir accéder ici à tous les jeux de société. Et un tarif quand même qui permet d'accéder vraiment à toute la gamme. Parce qu'il faut savoir que le prix moyen, en fait, d'un grand jeu de société, c'est quand même coûteux ici. En tout cas, si on achète sur place avec le pouvoir d'achat sur place, c'est vraiment coûteux. Donc, il a fallu trouver un moyen quand même pour que les gens puissent venir jouer à ce qu'ils veulent. Ici à Pilalow. Donc voilà pour la petite histoire en fait du fonctionnement de la structure. Et après les enfants qui viennent, ah bah écoute, il y a de tout. Il y a des malgaches, il y a des enfants d'expats. J'ai beaucoup d'enfants qui parlent français, hein, de francophones, qui viennent des écoles françaises ici à Tana. J'ai aussi des enfants de l'American School, de la British School, donc j'ai beaucoup de. Voilà, j'ai quand même une belle palette d'enfants. Après, c'est vrai que naturellement, comme je mets un tarif à l'entrée, il est certain que je n'ai pas tous les enfants de Tana. Enfin, j'ai pas tous les enfants de Tana qui viennent parce que je suis consciente que c'est quand même un budget de venir jouer. Comme je dis, c'est vrai qu'à chaque fois, parce que juste en dessous de Pilalow, il y a une pizzeria, pour la petite histoire. C'est ce que je dis en fait, c'est que c'est un vrai challenge d'emmener les gens, de leur dire venez jouer, mais venez payer pour jouer. Ça, c'est un vrai challenge parce que c'est pas gagné. Et c'est ce que je dis, c'est que pour nourrir votre corps, vous allez bien payer en fait de quoi manger. Et ben pour nourrir votre esprit, en fait, c'est un peu voilà, c'est un peu ce pourquoi je me bats aussi, et c'est le défi avec Pilalow.
Si tu nous parlais un peu des tarifs, parce que moi je vis en Espagne, donc j'aurais pas comment on dit ça, la valeur en euros. Mais est-ce que tu peux nous donner une idée? Est-ce qu'on paye par heure, par demi-journée, par jeu qu'on essaye? Et combien ça coûte, juste pour que l'audience ait une idée de l'accès, en fait, du ticket d'entrée pour Pilalow?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un tarif qui est par heure et par personne. Les enfants de moins de 3 ans, ils ne payent pas, c'est gratuit. Il n'y a que l'accompagnateur du coup qui paye parce que l'accompagnateur qui est avec lui, en fait, il joue avec lui parce que c'est ce que j'encourage aussi ici, c'est le jeu ensemble. Tu vois, les gens, ils viennent ici, ils vont pas laisser les tout petits. C'est pas une garderie, c'est vraiment pour inciter les familles à jouer avec les enfants et du coup les amis entre eux. Enfin voilà, c'est vraiment amener ce truc de jouer ensemble en fait. Donc le tarif, pour te dire à peu près, donc c'est 15 000 ariary par heure par personne, ce qui fait à peu près 2 euros et quelques, 3 euros, je crois, à peu près. Et si tu viens en groupe, si vous êtes 4 personnes minimum, C'est un peu moins que ça. Voilà, c'est un peu moins que ces 3 euros, ces 2 euros, 2,05 €. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est aux alentours de ces prix-là.
D'accord. Tout à l'heure, tu disais que justement, tu allais aussi faire des heures de bénévolat, tu allais aussi dans des orphelinats pour pouvoir donner accès aussi à ces enfants-là la possibilité de jouer. Est-ce que là-bas, tu as l'impression d'apprendre et de, comment dire, de pas voir les inégalités sociales finalement à travers le jeu? Est-ce que tu as l'impression d'avoir les mêmes enfants en fait face à toi que chez Pilalo?
Ah mais complètement, complètement. Si on fait abstraction du fait que ça soit un orphelinat, du fait que ça soit une école défavorisée, c'est exactement les mêmes enfants que j'ai en face de moi quand je les fais jouer chez Pilalo ou alors ceux que je rencontre dans les orphelinats ou dans les structures démunies. C'est cette envie de découvrir, c'est cette impatience en fait de jouer, c'est de vouloir se surpasser, d'utiliser sa mémoire, ou d'user de stratégie. Donc, c'est vraiment les mêmes choses que je retrouvais.
D'accord. Tu peux nous citer un peu tes jeux qui pour toi sont des classiques pour les enfants?
Ah, pour les tout petits, ici, c'est croque-carotte.
Ah, alors là, il faut que tu m'expliques ce que c'est, je ne connais pas.
En fait, c'est un parcours de lapins. Voilà. Il y a quatre lapins qui vont concourir pour faire une course pour aller jusqu'à la carotte. Sauf que sur ce parcours-là, il y a évidemment des pièges. Donc le parcours, il est fait comme une colline où il y a des cases en fait, et tu pioches au fur et à mesure des cartes, soit pour avancer, soit pour tourner une carotte en fait qui est au centre du plateau. Et quand tu tournes la carotte, il y a des trous qui apparaissent sous les cases qui font tomber du coup les
Ah,
lapins.
d'accord. Et donc tu repars à la case de départ.
Exactement.
Ok. D'accord. Croque-carotte, super.
Voilà, donc par exemple, on a ça pour les plus petits. Si je dois te citer un jeu par catégorie à peu près d'enfants, tu as le devine-tête aussi pour les un peu plus grands. Et après, tu as tout ce qu'il y a Minecraft qui marche bien. Tu as tous les jeux de plateau avec des héros, ça aussi, ça marche bien. Les enfants, ils aiment bien en fait quand tu as une aventure à réaliser pendant le jeu. Et après, tu as tout ce qu'il y a jeux de mémorisation, donc comme les mémories. Des jeux d'imagination où tu dois user aussi de ta créativité pour essayer de trouver une solution, voilà tout ça.
D'accord. Ça, c'est la partie enfant. Quand tu vas en entreprise, c'est quoi les jeux?
Alors, quand tu vas en entreprise, en tout cas, moi, j'ajuste certains jeux. Il y a certains jeux où j'utilise les vraies règles et il y a certains jeux où je les utilise justement pour, et je l'optimise, on va dire, à ma façon, pour faire ressortir vraiment le fait que ça soit des jeux en équipe et où il faut faire ressortir la cohésion d'équipe. Tu vois, par exemple, le Dixit, tu connais ce jeu?
Oui. Mais tu peux expliquer les
Bah,
règles, mais
sache
oui,
que...
je connais le jeu.
Ouais. Donc, le Dixit, en fait, c'est un jeu où tu vas faire marcher ton imagination pour essayer, à travers des cartes qui sont illustrées, pour essayer de refaire ressortir un thème ou des phrases ou ce que tu veux. Et après, il y a un système de vote où tu vas donner ton thème en fait à tous les autres participants qui eux aussi doivent du coup choisir des cartes. Bon, expliquer comme ça, c'est peut-être pas très simple à comprendre. Mais le Dixit, par exemple, qui est fait pour 12 joueurs maximum, je crois, eh ben, ça, je l'ai utilisé déjà pour des équipes où ils étaient 36.
Ah oui, d'accord. Et toi, ton jeu
Voilà, donc
favori?
c'est un peu ça le challenge. Et moi, mon jeu favori, ouais, j'en ai pas mal, hein. Mais je pense que mon jeu favori du moment, c'est le Minecraft, la
D'accord.
version pour les plus grands.
D'accord. Vous continuez à jouer un peu à la maison?
Oui, on continue, oui, bien sûr. Et même, du coup, on a la chance parce que d'avoir tous ces jeux ici chez Pialo. Parce que le soir, quand je rentre chez moi, ben, je choisis un jeu pour mes enfants, un jeu qu'ils ne connaissent pas forcément ou un jeu qu'ils aiment bien, et je peux du coup diversifier un peu les jeux que j'emmène chez moi.
D'accord. Génial. Non, mais c'est top. Nous, on adore jouer en famille. Souvent, on fait des réunions de famille avec tous les cousins. Quand j'ai vécu au Canada aussi, avec les cousins, on jouait beaucoup. Du coup, le jeu, j'adore. Et je trouve qu'il y a plein de valeurs aussi à travers le jeu. Que ce soit quand tu joues en équipe, où en fait, tu as une solidarité, tu as l'esprit d'équipe, tu as des complicités aussi qui se créent avec des gens où tu n'étais pas forcément proche. Mais du coup, à travers le jeu, tu crées un lien beaucoup plus rapide aussi.
Oui, 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 c'est vrai. C'est aussi ça. Hein. C'est aussi pour ça aussi que je fais ça, parce que tu sais, traditionnellement, nous malgaches, on n'exprime pas nos émotions. On les garde beaucoup pour nous, et avec le jeu, c'est justement le moyen d'exprimer ses émotions et de ne pas se mettre un filtre. Parce que quand tu joues, tu y vas à fond, tu te surpasses, et c'est impossible que tu te dises « Ah là, là, je vais me retenir
». Ouais, je suis tout à fait d'accord, je suis tout à fait d'accord. Puis quand tu joues, tu donnes tout, quoi. Tu veux gagner, tout le monde joue pour gagner, même si on dit « l'essentiel, c'est de participer ». Non, 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 tu joues pour gagner. Donc, y a ça aussi qui est à la clé en tant que récompense.
Oui, c'est ça.
Et y a des jeux malgaches qui existent chez Pilalov un peu ?
Oui, ça, c'était primordial d'avoir ça dès l'ouverture. C'est d'avoir quand même des jeux traditionnels. Donc, tu as tous les jeux traditionnels, style Fanourne, le catch. Tu sais, tu as les solitaires. Je pense que tu en as déjà vu, parce qu'il y a beaucoup de, malgaches qui ont quand même ces solitaires dans les salons.
Bien sûr, les parents.
Voilà. Et oui, pour moi, c'était primordial. Avant l'ouverture, je suis allée au marché, du coup, pour aller choisir mes jeux traditionnels. Et en plus de ces jeux traditionnels, il y a aussi les jeux, comme les jeux de société, qui ont été inventés hein, par des malgaches. Il y a des mémories, par exemple, malgaches. Il y a le lama, que tu dois connaître aussi, qui a été inventé par des malgaches, mais fabriqué en France. Tu connais le lama ?
Oui.
Oui, voilà. Et oui, pour moi, c'est normal. Enfin, c'est normal, essentiel qu'on ait ça ici. Oui.
Oui, oui, oui. Non, mais c'est bien. C'est un beau projet. C'est top. Sarik, on arrive bientôt à la fin de notre conversation. Mais avant de terminer, je finis toujours par des petites questions d'ordre personnel sur ta vision sur Madagascar. Oui. Est-ce que tu es prête?
Vas-y, je suis prête.
Quel est ton lieu préféré à Madagascar ?
C'est chez moi.
Quand tu dis chez toi, c'est non, chez Pilalov, c'est dans ta maison, non, c'est Tana ?
Non, bah, c'est chez moi. Je suis très casanière, en fait. Et naturellement, je te dis chez moi. Mais est-ce que tu veux un lieu peut-être hors chez moi ?
Ça peut être chez toi. Hein. Si c'est ton lieu préféré, c'est ton lieu préféré.
Voilà, c'est mon lieu préféré.
Ton plat malgache préféré ?
C'est le Enaxou Swansburg.
Oh, on va être copines. Ton plus beau souvenir à Madagascar ?
Depuis petite, du coup, hein. C'est ça ?
Oui.
Je pense que c'était forcément en vacances. Et en tête, j'ai l'océan. En tête, j'ai le sable. J'ai des vacances étant petite. Et du côté de Full Point. Des vacances familiales, en fait, à Full Point. Voilà.
Où tu allais régulièrement ? Ou tu es allée une fois ?
Oui, c'est ça. En famille, on y allait régulièrement de ce côté-là.
D'accord. Un mot ou une expression malgache que tu dis de façon régulière ?
Alors, attends, là, je réfléchis juste une minute. Bruce Niff.
À tes enfants.
Non, parce qu'en fait, je t'explique quand même le contexte. Parce qu'en fait, oui, bah, mes enfants, ils sont nés en France, ils ont grandi en France. Et on a toujours essayé de... On a toujours voulu avec mon mari qu'il parle malgache. Sauf que mon mari et moi, on a aussi été élevés dans la langue française. Donc, on sait parler malgache, mais compliqué au quotidien. Et à chaque fois, avec les enfants, on en a quatre. Hein, et à chaque fois, c'est la même rengaine. Le premier, quand il est arrivé, allez, on parle malgache. Non, c'est le français revient au galop. Deuxième, troisième, quatrième. Et par contre, il y a une chose qui revient souvent, c'est Dana Bruce Niff.
J'adore. Ah non, mais j'adore.
Alors, ah, t'as le Bruce Niff et t'as le Lamba Malout.
Ah oui.
Mets tes linges sales, quoi.
Atomane Lamba Malout. Mais j'adore. Mais c'est génial. Non, mais c'est très bien. Au moins, il y a deux expressions qu'ils connaissent.
Voilà, c'est ça.
Et avant de terminer, est-ce qu'il y a un message que tu aimerais passer, Sarik, à l'audience de Malabar? Donc, si tu peux le faire à Fagatona, à Mtin Gaz, à Mtin Français, à Mtin Noatom.
Ok. Oui, j'ai un message. C'est que oui, c'est vrai que Madagascar, c'est compliqué. C'est que même actuellement, d'ailleurs, c'est les élections présidentielles, situation instable, etc., etc. Mais il y a tellement de choses à faire. Et quand on voit les enfants, enfin moi en tout cas, quand je travaille avec les enfants démunis, il faut faire des choses pour eux. Et si on n'est pas là pour les faire, en fait, et nous, on a la chance, tous ceux qui sont du coup à l'extérieur, la diaspora à l'extérieur, vous avez la chance d'avoir du recul sur les choses, d'avoir vécu autre chose que qu'ici. Et je pense que ça peut être vraiment très enrichissant de pouvoir apporter ne serait-ce qu'un petit quelque chose de votre expérience ou voilà, ici, parce que en fait ici on en a vraiment besoin. Et voilà, donc ici c'est compliqué, mais moi ça fait un an et demi et moi je sais qu'il y a une raison que je sois ici, et je pense qu'on va tout faire pour le faire le plus longtemps possible. Voilà.
Merci Sarik. J'ai oublié de te demander, est-ce que tu es heureuse aujourd'hui d'avoir ton projet, ta passion et de partager ce que tu aimes avec les enfants ?
Ah oui, carrément, oui, je suis, là je te souris à fond là, sans que t'as pas les caméras. Je suis en train de sourire à moi-même en fait, toute seule ici chez Pilala. Mais oui, je suis, malgré tout ce que je t'ai dit par rapport à ce qui se passe ici, ah oui, je suis heureuse et je le porterai le plus haut possible, ce projet. Après, moi, je suis beaucoup au jour le jour quand même. Et en tout cas, le travail accompli depuis aujourd'hui me permet de te dire que j'ai réussi quelque part. Voilà.
Super. Sarik, on te souhaite une très bonne continuation. Merci d'avoir partagé ton histoire et à bientôt.
Ben merci, Sandra. À bientôt, merci.
L'épisode touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Malabar, c'est bien plus qu'un podcast, c'est une aventure à travers Madagascar. Ce podcast, c'est également le vôtre. Alors si vous souhaitez partager votre histoire ou si vous connaissez quelqu'un qui mérite d'être entendu, n'hésitez pas à nous contacter sur malabar.fr ou sur LinkedIn, Simbach Rappé Farnouch. Ensemble, continuons à explorer les joyaux cachés de Madagascar. Amanarakanjeyo, Velum!